Cette conférence a été donnée à Hugon sur le plateau de l'Ardèche le 15 août 2018 sur le thème « L'armure complète de Dieu » selon Éphésiens 6. Il y a deux intervenants, Lucien Jouve et Pierre Audon.
Oui, Seigneur Jésus, nous te rendons hommage et nous nous adressons à toi, chef de l'Église, chef glorieux, vivant à la droite de Dieu, vivant pour nous, mais vivant aussi en nous. Merci parce que tu nous as donné ta parole, merci parce que tu nous as donné ton esprit. Et tu vois, cet après-midi, modestement, nous voulons ouvrir l'Écriture sainte, et avec cette image de l'armure complète de Dieu. Et tu sais que ce sujet est sérieux, parce que tu nous montres dans cette Écriture que nous avons des ennemis, les mêmes que pour toi, des ennemis invisibles, d'autant plus redoutables qu'ils sont invisibles. Mais nous te remercions parce que tu nous a donné cette armure complète de Dieu et qui a été, nous le croyons, sur toi d'abord en tant qu'homme. Alors Seigneur, éclaire ce sujet et que avec Pierre nous puissions, avec des mots simples et selon nos possibilités aussi, expliquer ce que veut dire ces différentes pièces de l'armure. Sois-nous en aide et qu'il y ait une bénédiction profonde au milieu de nous, dans chacune de nos vies aussi, mais dans chacune de nos assemblées aussi. Nous te demandons cette grâce, toi chef de l'Église, qui veux bénir ton Église encore sur la terre, qui est harcelée par ce même ennemi que tu as rencontré, que tu as vaincu et que tu nous appelles à lui résister maintenant. Alors fais-nous du bien et dépasse notre attente et nous te rendons encore hommage. Amen. Amen.
Nous vous remercions d'être venus nombreux à cette réunion qui est dans un sens, bien que non prévu, une suite à ce que nous avons pu entendre hier et avant-hier. On va faire un zoom sur le chapitre 6, une partie du chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. Je voudrais préciser quelque chose, plusieurs choses que nous avons chantées. Le premier point, c'est que l'œuvre de grâce est terminée. Jésus s'est assis dans le Saint-Lieu. Dans l'Épître aux Colossiens, nous avons lu hier ce verset qu'il a dépouillé les puissances de méchanceté, ayant triomphé d'elles en la croix. Il y a plusieurs versets qui vont dans ce sens. C'est un point. Un autre point, c'est que nous avons une certitude d'être un jour, nous l'avons chanté, dans le ciel, avec le Seigneur. Et entre-temps, nous sommes sur la terre. Et cette armure concerne le temps de notre passage sur la terre. Une chose certaine aussi, c'est que nous avons été délivrés du pouvoir des ténèbres et transporté déjà par la foi dans le royaume de l'amour du Fils du Père. Ce sont des certitudes, cela. Il faut bien comprendre que, dans un sens, la guerre est terminée. Jésus a vaincu. C'est définitif. Il n'y a rien à ajouter de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais il reste des, si j'ose dire, des poches de résistance où le diable va parce qu'il peut encore intervenir. Il est un ennemi vaincu, c'est fait. Néanmoins, il décoche encore ses flèches pour gâcher la vie des croyants et ne pas leur permettre de jouir de tous les résultats précieux de l'œuvre de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Et ça, dit non, il ne faut pas qu'ils en jouissent de cela. Et donc le chrétien est sur la terre, et il va combattre contre cet ennemi déjà vaincu, mais encore fort. Je vais tout d'abord vous présenter le contexte général. Le Nouveau Testament, vous le savez, est constitué de livres historiques, didactiques, c'est-à-dire apportant un enseignement, les Épîtres, et prophétiques, l'Apocalypse. Dans les livres historiques, il y en a 5, 4 évangiles, plus le livre des Actes. Les évangiles nous relatent la vie de Jésus-Christ depuis sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection. Et cela couvre 30 ans avant la croix. Le livre des Actes couvre 30 ans après la croix, partant de la résurrection de Jésus-Christ et de son élévation dans la gloire, pour se terminer après les ministères d'évangélisation de Pierre et de l'apôtre Paul, pour se terminer sur un passage qui nous présente Paul emprisonné à Rome. Et c'est de ce lieu que l'apôtre Paul va écrire l'épître aux Éphésiens. Paul connaissait bien les Éphésiens. En lisant le livre des Actes, nous pouvons nous rendre compte qu'il avait séjourné 3 ans. Et puis, lors de son 3e voyage missionnaire, lors du retour, il appelle les anciens d'Éphèse et les rencontre. Et là, il leur fait ses adieux. Il leur fait ses adieux. Et puis, nous avons donc cette lettre aux Éphésiens, toujours aux mêmes Éphésiens. Il est à Rome, je viens de le dire, il est emprisonné. Et vous savez, qu'est-ce qu'il a comme spectacle, jour et nuit? Il a un soldat romain. Il a eu le temps de le voir de la tête aux pieds. Et cette contemplation va l'amener à sublimer l'armure du soldat romain pour en tirer un enseignement spirituel. Et c'est ce que nous allons lire. Maintenant, je vous présente l'auteur. Il était un juif, ennemi de Jésus-Christ, et une seule phrase résume bien qu'il était, il respirait menaces et meurtre contre les disciples du Seigneur. Mais un jour, le Seigneur Jésus lui est apparu du ciel, et Paul a été changé. Et le Seigneur dira à Ananias, il dira, cet homme est un instrument de choix pour moi, un vase d'élection, et je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Il était donc un juif. Au moment où il écrit, c'était un homme âgé, puisque 3 ans après, il dira qu'il est un vieillard. Donc c'est un homme âgé, plus jeune que moi, mais âgé quand même. Troisièmement, il était un enseignant. Il pouvait dire justement aux anciens d'Éphèse, je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu. Cet homme était un évangéliste. Et il disait qu'il fallait insister sur la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Cet homme était un serviteur. En acte 20 encore, on peut lire ce passage, servant le Seigneur en toute humilité, avec des larmes et des épreuves. Cet homme, je l'ai déjà dit, est un prisonnier. Pourquoi était-il prisonnier? Pourquoi la foule excitée, on dit, mais hôte, de la terre un pareil homme, il n'aurait jamais dû vivre. Qu'avait-il donc fait? Il était témoin de Jésus-Christ. Mais le 7e caractère que je veux vous présenter, c'est que cet homme était un soldat. Cet homme était un soldat, et c'est important avec le texte qui nous occupe maintenant. Cet homme était un homme de terrain. Il pouvait défaire sa tunique et montrer son dos, où restaient gravées à jamais les marques de 3 terribles flagellations romaines. Le Seigneur en a eu une, il en a eu 3. Et aussi les 195 coups de bâton, les marques des 195 coups de bâton qu'il avait reçus dans la maison de ses amis, les Juifs. Vous trouverez cela en 2 Corinthiens au chapitre 11. Alors, qui est donc cet homme qu'on veut ôter de la terre et qui terminera sa vie en disant « J'ai combattu le bon combat ». Encore une fois, c'est un homme de terrain, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. C'est pour ça que l'enseignement que nous allons lire est important pour nous. Ce n'est pas un théoricien de la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui a mis en pratique. Voilà pour l'auteur. Maintenant, je voudrais vous présenter le texte et nous allons commencer par la lecture des versets 10 à 13 du chapitre 6. De l'Épître aux Éphésiens.
Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, tenir ferme.
Je voudrais vous faire un rapide survol en 7 points. Il y a 7 leçons à retirer de ces passages, de ce passage introductif. La première leçon, c'est que la vie chrétienne n'est pas une promenade. Jamais il n'y a l'image de la promenade. Il y a la marche, la course, le combat, mais pas la promenade. Paul exhorte son fils Timothée à combattre le bon combat de la foi. La seconde, c'est que le diable et ses agents ne sont pas inactifs. Ils ne sont pas inactifs. Et Pierre, dans sa première épître au chapitre 5, dira « Le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. » La troisième, c'est que le combat ne se gagne qu'avec des gens équipés et attentifs aux conseils que donne la parole de Dieu. La quatrième, c'est qu'il ne faut pas oublier une pièce de l'armure. Vous savez, quand on veut rentrer dans une propriété et que la porte est fermée, eh bien on va chercher le point le plus bas. Et c'est par là qu'on passera. C'est par là que passent les voleurs. C'est par là que passe l'ennemi. Toujours le point le plus bas. Donc, attention d'être entièrement protégé dans tous les domaines de notre vie. La cinquième, c'est qu'il ne faut pas se tromper de combat ni d'ennemi. Nos ennemis ne sont pas nos frères. Nos ennemis ne sont pas les hommes. Nos ennemis, ce sont les puissances spirituelles de méchanceté qui habitent dans les lieux célestes. Et Paul dira aux Corinthiens, les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes pour la destruction des forteresses. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. La sixième, c'est qu'il faut être persévérant, endurant et ne jamais se relâcher. Paul en parle aux Philippiens en disant, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours pour le prix de l'appel céleste de Dieu. Voilà, une course, un combat, une persévérance qui va jusqu'au bout. Et la septième, c'est qu'il ne faut pas oublier que la véritable force du combat vient de notre communion avec le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa grâce. Et en Philippiens 4, je puis toutes choses par celui qui me fortifie. C'est là sans aucun doute le secret de la victoire. Mais arrivons à notre texte, les versets 14 à 18 du chapitre 6.
Tenez donc ferme, ayant saint vos reins de la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice, ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'esprit, et veillant à cela avec toute persévérance, et des supplications pour tous les saints et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile pour lequel je suis un ambassadeur lié de chaînes, afin que j'use de hardiesse en lui comme je dois parler.
Encore deux remarques préliminaires. La première, c'est que Paul va se servir de l'image de l'armure romaine pour nous apporter un enseignement spirituel. Et bien que nous entrerons dans quelques détails de l'armure romaine, il ne faut pas perdre de vue que nous devons retirer une leçon générale des choses. Cela sera répété. La seconde chose, c'est que vous ne le savez probablement pas, le légionnaire était propriétaire de son armure. C'est lui-même qui l'a acheté. Alors, dans un sens, toutes les armures romaines étaient semblables, mais aucune n'était identique. Nous sommes tous différents. Une question qui se pose aussi, c'est de savoir si cette armure dont parle Éphésiens 6 nous est donnée par Dieu et que nous devons la prendre, ou si cette armure, nous devons nous la constituer nous-mêmes. Je penche vers le second membre de l'alternative. Pourquoi ? Parce que le bouclier de la foi, par exemple, bien, on n'a pas tous la même foi. Le Seigneur le soulignait. Quand il rencontre le centurion romain et dit « Je n'ai pas trouvé une si grande foi même en Israël », ou la femme syrophénicienne, « Ta foi est grande. » Ah oui. Donc il y a des grandes fois, des petites fois, des boucliers plus petits ou plus gros, et je crois qu'il y a là à mettre en compte notre responsabilité dans ces armes dont nous allons maintenant parler. La ceinture de la vérité. Je relis le texte. Tenez donc ferme. Et le texte grec dit « Tenez-vous debout ». Il est vrai qu'on imagine mal un combattant sur un relax ou sur un lit. « Tenez-vous debout », dit le texte grec. « Mettez autour de vous, autour de vos reins, la ceinture de la vérité. » Il est clair que la fonction première d'une ceinture, c'est d'entourer, de soutenir aussi. On verra qu'elle peut soutenir la cuirasse. Et vous avez ici une représentation donc de cette ceinture romaine. À vrai dire, ça c'est le ceinturon. Mais il y avait deux ceintures. Et je crois que la seconde est plus explicite en ce qui concerne notre thème. La première, le ceinturon, le cingulum, il était en cuir et il servait à porter les armes principalement. Il pouvait aussi porter la bourse, voire des outils. Et devant, vous aviez ce tablier. Ce n'est pas vrai à toutes les périodes, à toutes les époques de l'Empire romain. Et on peut se demander à quoi ça servait. Alors, ça servait, il mettait dessus des boutons en laiton, il mettait des médailles, des choses précieuses et chères. Et même de nos jours, si vous cherchez sur Internet, vous verrez que vous pouvez vous acquérir une armure romaine reconstituée avec différents types d'armures, mais mettez de côté 3000 euros. On ne vous la donne pas. Cherchez. Et c'était des pièces de valeur. Et alors, on s'est posé la question de savoir quelle était la fonction de ce tablier. Il semble que lorsqu'il marchait, il y avait un certain bruit. Tout seul, c'est un bruit discret qui peut nous faire penser au témoignage. Au témoignage. Quand un légionnaire marchait derrière moi, je savais que c'était un légionnaire qui arrivait. Hein ? Mais ça ne faisait pas de bruit, c'était pas une ce n'était pas une trompette. C'était quelque chose d'assez discret. Et en même temps, le légionnaire trouvait là, quelque part, son identité. Il pouvait afficher sa richesse. Et c'était une punition dans l'armée que de faire déposer la ceinture. Et quelqu'un qui se promenait avec sa tunique sans ceinture, il était couvert de honte. Comme se balader en sous-vêtements au milieu d'un public, si vous voulez. Donc il y a cette notion qu'il ne faut pas perdre de vue. Nous trouvons la fonction de porter des armes aussi dans la parole de Dieu, dans le livre des juges, et au chapitre 18, verset 17, où il est question de 600 hommes qui étaient saints de leurs armes de guerre. Mais je vais en dire un peu plus à propos de ce qu'on appelait la fascia ventralis. Il y avait donc une seconde ceinture. Et cette fois-ci, c'est une ceinture de lin de 30 cm de largeur sur 3 mètres de longueur. Suivant les époques et suivant les peuples, c'était mis à même la peau, et on en parlait à midi, même les paysans mettaient cette ceinture ici lorsqu'ils allaient au champ, et c'est une ceinture de force. C'est pour renforcer les reins. Le légionnaire avait un barda, un équipement total qui pesait environ 40 kg. Vous n'avez jamais essayé de porter un sac de 40 kg, c'est lourd. Et il faisait pour l'entraînement au moins 3 heures par jour. Vous vous rendez compte? Donc c'était... cette ceinture était indispensable. Elle permettait donc de porter de lourdes charges. Elle permettait de relever le vêtement quand il était long, comme c'était le cas des Juifs, pour ne pas salir la robe, la tunique. Et puis elle avait donc une fonction honorifique aussi, celle-ci. Il y avait les gens qui étaient saints de leur ceinture et ceux qui étaient sans ceinture. J'aimerais prendre une image assez simple que tout le monde peut connaître. J'ai trouvé cette définition extraordinaire, bien sûr en cherchant, de nos jours c'est facile, avec la ceinture noire de judo. Quelqu'un qui est ceinture noire de judo, on dit « il ne faut pas l'ennuyer celui-là ». C'est ce que ça veut dire. Écoutez maintenant ce que dit
Wikipédia ou quelqu'un d'autre.
La ceinture noire en judo, au-delà du grade et de l'honneur qui s'y rattache, représente une triple valeur, la moralité, l'habileté et la force. Mieux encore, si la ceinture noire confère à celui qui la porte un prestige certain, elle lui donne en même temps la responsabilité d'être un exemple. Vous voyez les applications que nous pouvons faire. Et pour nous, nous l'avons lu, il s'agit de la ceinture de la vérité. La vérité. La vérité. Les caractères même de Dieu, un des caractères de Dieu. Il nous est dit en Jérémie 10:10, l'Éternel Dieu est vérité, lui est le Dieu vivant et le roi d'éternité. Nous savons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et même la parole nous dit que l'Esprit est la vérité, les caractères de Dieu, et que la parole de Dieu est la vérité. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer de tout cela? Eh bien, la vérité doit caractériser le croyant dans tous les domaines de sa vie. C'est la première leçon. Dans l'être intérieur, Psaume 51, verset 6, David dit « Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur. » Et c'est par là, à mon avis, que tout commence. La vérité dans le service. 1 Samuel 12, 24, Samuel dit au peuple « Seulement craignez l'Éternel et servez-le en vérité de tout votre cœur. » La vérité doit se montrer dans nos paroles. Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, parlez la vérité chacun à son prochain. Et je pense que s'il en était ainsi, plusieurs problèmes se trouveraient réglés. Et enfin, dans nos actes, selon 1 Jean 3, 18, enfants, n'aimons pas en parole ou en langue, mais en action et en vérité. La vérité doit donc nous caractériser dans tous les domaines de notre vie. Le croyant n'a rien à faire avec celui qui est le menteur et le père du mensonge. Chers frères et sœurs, si nous mettons de façon pratique cette ceinture de la vérité, que nous puissions être connus comme des gens qui tiennent leur parole, n'est-ce pas ? Des gens qui font ce qui est droit, juste et vrai et bon devant Dieu. À ce moment-là, nous serons des témoins de Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même nous en a donné un exemple, et par la voix prophétique, on peut lire en Ésaïe 11, 5, « La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses flancs. » Cela, c'était notre Seigneur. Essayons de l'imiter.
Maintenant, nous passons à la deuxième pièce, la cuirasse. La cuirasse de la justice. Donc nous voyons à la représentation ici que la ceinture de la vérité et la cuirasse de la justice sont intimement liées. D'ailleurs, toutes les pièces, on ne peut pas en exclure une, puisque par deux fois dans le texte que nous avons lu, il est parlé de l'armure complète. Donc c'était très dangereux pour le soldat de s'aventurer au combat en ayant une pièce manquante. Et on voit très bien que la ceinture tient la cuirasse. Et d'ailleurs, il y a quand même une relation entre la ceinture de la vérité et la cuirasse de la justice. Ce sont deux notions proches. Dans un tribunal, par exemple, la vérité établit la justice. Donc, cette cuirasse, elle est une pièce essentielle. Pourquoi ? Parce qu'elle protège des organes vitaux. D'abord, ici, le cœur. Ensuite, les poumons. Et ensuite, tous les organes de l'abdomen. On peut ajouter aussi, c'est quand même assez évident, qu'elle protège aussi le sexe. Et à ce propos, je vais dire une phrase, et je n'y reviendrai pas sur ce sujet-là, que si notre sexualité n'est pas gérée par ce qui est juste, nous ne serons pas protégés du démon de la fornication. Mais revenons à l'image. La cuirasse. Quelle est la caractéristique majeure d'une cuirasse ? C'est qu'elle soit impénétrable. Sinon, elle ne sert à rien. Et là, nous allons faire une démonstration. J'ai ce poignard. Vous voyez ? Il est effilé, il est costaud. Il est terrible, ce poignard. Et je vais le lancer de toutes mes forces contre la cuirasse. Au début, j'ai pensé faire la démonstration en mettant la cuirasse sur la poitrine de quelqu'un. Et puis après, concertation, on a dit que c'était trop spectaculaire. Ça aurait été un test de confiance en moi et dans la cuirasse. Mais si ce n'est pas sur la poitrine de quelqu'un, vous n'oubliez pas que le cœur, là, il est derrière à quelques centimètres. Hein. Et le coup que je vais donner, il peut être mortel à tous les coups. Tout dépend de la cuirasse, si elle est impénétrable ou pas. C'est une bonne cuirasse. Mais le couteau ne s'est pas enfoncé. Par contre, vous avez vu que le soldat a vacillé. Ça, c'est important pour la suite. Alors, il faut quand même approfondir un peu le sujet. Qu'est-ce que c'est que cette cuirasse de la justice? Et à quoi représente, que représente mon coup de poignard au sens moral, spirituel? On ne peut pas rester toujours dans l'image. La cuirasse de la justice. Ce coup que je viens de porter, alors je l'explique comme je l'ai compris, avec mes mots, évidemment. Ce coup que je viens de porter, ce sont des accusations. Parce que vous savez que le diable est le grand accusateur. Apocalypse 12, il est l'accusateur des frères. Il nous accuse. Alors, il y a deux sortes d'accusations. Des accusations qui peuvent venir de notre intérieur, de nos pensées, parce que Satan agit par nos pensées, il est tort, il est... Et si bien qu'on pourrait appeler ça auto-accusation. Du genre, avec ce que tu es, avec ce que tu as fait, ce que tu as commis, tu risques pas d'être sauvé. C'est un coup de poignard. Tout ce qui touche à notre salut, c'est grave, parce qu'il n'y a rien de plus important dans le monde que notre salut éternel. Et la parade, c'est cette justice que nous avons en Jésus-Christ, justifiée gratuitement par sa grâce. Et puis dans notre vie chrétienne aussi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Bon, ça c'est un aspect. Alors, après, des accusations qui viennent de l'extérieur à nous. Elles sont de 3 ou 4 ordres. On nous accuse d'un péché que nous avons commis et que nous n'avons pas confessé. Il peut être, nous pouvons l'avoir commis ces jours-ci, nous pouvons l'avoir commis il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça ne change rien. Il est toujours là, si nous ne l'avons pas confessé, Satan va s'en servir. Vous voyez cette faille là, je ne sais pas si vous la voyez de loin. Ça c'est une faille dans la cuirasse et c'est un péché non confessé. Donc si le couteau se plante dans la faille, la pointe peut nous blesser. Et s'il y a quelqu'un qui écoute et qui est conscient que il a un péché non confessé. Encore une fois, comme les frères de Joseph, c'était 10 ans, 13 ans après, ils n'avaient toujours pas confessé, il était là, leur péché. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est confesser, se repentir devant Dieu, parce que Satan peut utiliser cette faille. Nous n'avons pas fait ce qui est juste, la cuirasse de la justice. Deuxième genre d'accusation, nous avons commis un péché, oui, il y a 8 jours, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, mais nous l'avons confessé ce péché, nous nous en souvenons, nous nous sommes repentis. Et alors, il était bien la faille. Si nous avons confessé, la faille s'enlève. La cuirasse est intacte. Satan peut nous accuser par des personnes qui se complaisent à ressoulever les cendres. Eh bien, nous avons confessé. Mais quand même, si la personne nous ressort un péché d'il y a 20 ans, nous vacillons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, tant que c'est réglé avec le Seigneur. Et là, je donnerai deux exemples. Un biblique et un autre non biblique. Dans l'histoire de David, David fuit devant Absalom, une terrible épreuve. Son fils veut le détrôner. Il passe le Jourdain en pleurant. Et puis là, sur le chemin, il y a un certain Shimi qui lui dit, en 2 Samuel 16, « Sors, sors, homme de sang, homme de Bélial, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül à la place duquel tu as régné. L'Éternel a mis le royaume dans la main d'Absalom, ton fils. Te voilà pris dans ton propre mal, car tu es un homme de sang. » Là, dans cette occasion, David a reçu un coup de poignard. Et il a vacillé. N'avait-il pas été un homme de sang quand il a fait tuer Uri et qu'il a pris sa femme? Oui, il avait été un homme de sang, mais entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le psaume 51, il y a sa confession, son repentir profond, sa honte devant Dieu. La chose est réglée. Mais n'empêche qu'il a vacillé. Un autre exemple, c'est Fernand Legrand qui racontait cela. Il y a quelques décennies, un grand prédicateur de l'Évangile faisait une série de réunions un soir, et puis des centaines et des centaines de personnes se pressaient dans la salle. Et puis, dans la bousculade de l'entrée, quelqu'un glisse un papier dans la poche du prédicateur. Et il va derrière l'estrade et il lit sur ce bout de papier: vous souvenez-vous que vous avez été mêlé à une bande de gangsters en telle et telle année, en tel endroit, en telle circonstance? Et après avoir lu ce bout de papier, est-ce que vous oserez prêcher ce que vous appelez votre évangile? Et notre prédicateur a aussi vacillé derrière l'estrade en recevant ce coup. Mais après s'être ressaisi, il est monté sur l'estrade et il a dit devant toute l'assistance: je voudrais dire trois choses. Il a dit d'abord, un homme m'a glissé un papier dans la poche. Et à ce propos, je voudrais vous dire trois choses. La première, c'est que cet homme connaît bien ma vie et ce qu'il me reproche est vrai. J'ai commis des fautes. Deuxièmement, que je regrette profondément et que je me suis repenti devant Dieu à propos de ses fautes. Et troisièmement, que le sang du Jésus-Christ me purifie de toutes ses fautes. Et il a prêché l'évangile avec puissance. Troisième genre d'accusations qui peuvent nous parvenir comme un coup de couteau dans la cuirasse. Nous apprenons que des personnes nous accusent de choses que nous n'avons pas, absolument pas commises. C'est ce qu'on appelle la calomnie. Le diable calomnie. Et là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais là aussi, nous vacillons. Et quand ça vous arrivera, vous vacillerez, qui que vous soyez. Je prends un exemple. Un pasteur recueillait de l'argent pour des œuvres. Rien de plus classique. Il le faisait en toute intégrité. Et voilà qu'il y a une rumeur qui court, que quelqu'un a fait courir, que ce pasteur détournait de l'argent. Et là, ça a été un coup de poignard. le pasteur a vacillé. Et comment ça se fait que dans cette église, on a fait courir ce bruit-là? Eh bien, c'est un frère de l'assemblée auquel le pasteur avait parlé parce qu'il avait une double vie et le pasteur l'avait averti, il faut que tu te repentes et que tu changes. Et là, vous savez, dans ces situations, c'est qui te double? Soit la personne se repent et on n'en parle plus, tout rentre dans l'ordre, ou il va être votre pire ennemi. Il ne va pas vous faire de cadeau, celui-là. Et il va peut-être prendre quelque chose de très petit et l'amplifier. Vous savez, comme ce frère qui avait été accusé d'adultère parce qu'il avait été vu avec une femme à 11h du soir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La calomnie, c'est terrible. Ça peut ruiner une réputation, une renommée. Mais là, il y a une question subsidiaire. Est-ce que nous faisons le travail de l'accusateur ou le travail de l'avocat? Si nous accusons, nous faisons le travail de Satan, qui est l'accusateur. Si nous faisons le travail de l'avocat, nous faisons le travail du Seigneur. Il y a peut-être une quatrième forme d'accusation qui est peut-être plus subtile, c'est les insinuations. Ça, c'est flou, vous savez. Mais c'est aussi terrible. Je vous en cite deux insinuations. Ça faisait partie des 12 péchés de Corinthe, en 2 Corinthiens 12, je crois. C'est dans la liste des insinuations. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi l'apôtre Paul, en acte 20, dit « Je n'ai convoité ni l'or, ni l'argent, ni la robe de personne ». Exactement à peu près les mêmes paroles que Samuel le prophète. Est-ce que ça ne serait pas par hasard qu'il y aurait des insinuations qu'il dérobait de l'argent des collègues qui transportaient jusqu'à Jérusalem ou ailleurs? Qu'il ait dit ça, j'ai dérobé ni l'argent ni la robe de personne? Un autre exemple dans la vie du Seigneur Jésus. Cette histoire de conception miraculeuse, ça a dû faire des gorges chaudes à Nazareth. Et vous savez, les gens de Nazareth, ils ne croyaient pas en Jésus. Qu'est-ce qu'ils sont allés inventer, ces deux conceptions miraculeuses? Mais ils ont été infidèles, c'est tout. Tout est là. Et ça a dû se propager, ça. Et en Jean 8, les chefs, dans ce grand chapitre où les Juifs sont démêlés avec le Seigneur Jésus, ils disent au Seigneur à un moment donné, « Nous ne sommes pas nés de la fornication, sous-entendu comme toi. » Vous voyez la pointe? Terrible. Il faut nous méfier des insinuations ou rapporter des choses qui ne sont pas exactes. Et donc, la cuirasse protège. Et justement, c'est important que nous posions des actes justes aujourd'hui, parce que peut-être que nous allons être accusés, mais si nous avons posé des actes justes aujourd'hui, eh bien, peut-être les accusations vont nous faire vaciller, mais ces accusations ne vont pas percer la cuirasse. Et en construisant cette cuirasse, je me suis dit, mais oui, c'est important cette pièce hein, dans notre vie, des actes justes. Voilà, pour la cuirasse de la justice.
La pièce suivante, ce sont les chaussures de l'Évangile. Le texte dit « Chaussez vos pieds pour être prêts à annoncer l'Évangile de paix ». Traduction dans la diffusion de l'Évangile. On peut remarquer qu'il y a deux choses. une action, mettre les chaussures, et un but, annoncer l'Évangile. Les chaussures que nous avons ici ne sont pas hautement représentatives de la chaussure romaine, puisque c'était des sandales. C'était des sandales avec des lanières de cuir. Et quel est le propre, la fonction des chaussures? Bien sûr, c'est de protéger le pied. Et les chaussures romaines, les sandales romaines, étaient cloutées pour ne pas glisser. Pour ne pas glisser. Donc, avec des chaussures, nous pouvons marcher, et même nous pouvons marcher dans tous les terrains. Et c'est important. Parce que le chrétien est chargé d'une mission. Vous savez, les dernières paroles que Jésus-Christ ressuscité a prononcées. Actes, chapitre 1er, verset 8. Vous allez recevoir de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout de la terre. Ça valait la peine d'avoir de bonnes chaussures pour répondre à cette mission. Et le texte nous demande de chausser nos pieds de manière à être prêts à annoncer l'Évangile jusqu'au bout du monde. Il s'agit d'un point important, d'un point très important, et peut-être est-ce globalement une faiblesse de nos assemblées. Je crois qu'on peut constater beaucoup de progrès depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis descendu dans la rue avec des jeunes pour annoncer l'Évangile. Et cela n'a pas été obligatoirement bien reçu, vous le savez. Et pourtant, c'est la mission que le Seigneur nous donne. Et peut-être que par ces versets, Dieu veut nous parler. La dernière parole du Seigneur avant de monter au ciel, ce n'est pas rien cela. Les paroles d'un mourant sont conservées précieusement, les dernières paroles. Et là, c'est quelqu'un qui est monté dans le ciel et qui nous dit, voilà, j'étais le témoin fidèle, vous êtes mes remplaçants. Et j'aime bien cette expression, Dieu avait un unique fils et il en a fait un évangéliste, un porteur de bonnes nouvelles. Le chrétien est lumière dans le Seigneur. Chausser nos pieds, des sandales, en vue d'apporter l'Évangile, c'est apporter la lumière. C'est apporter la lumière au milieu des ténèbres de ce monde. Donc, dans ce sens, les chaussures sont presque une arme offensive. Parce que, on le sait bien, les ténèbres, ce sont l'absence de lumière. Et dès que la lumière arrive, il n'y a plus les ténèbres. Donc, le diable recule. D'où l'importance d'être préoccupé par l'annonce de l'Évangile. Il faut que nous l'ayons à cœur. Il y a différentes manières. On est bien d'accord que celui qui donne son argent pour les missionnaires participe à l'œuvre d'évangélisation. Nous sommes bien d'accord que celui qui prépare des petits gâteaux pour réconforter ceux qui sont allés répandre l'Évangile, travaille aussi pour l'Évangile. On est d'accord. Et ce que je voudrais souligner, c'est qu'il faut que nous ayons la chose réellement à cœur. Parce que le diable va nous dire, mais restez sur place. Non, pourquoi mettre vos chaussures? Vous n'êtes pas bien. Vous pouvez lire la parole à la maison, etc. Et ça aussi, c'est une attaque de l'ennemi. Le Seigneur nous a bénis, et je pense hier à nos enfants qui sont à Canjoubert. Et je n'invente pas. Ma fille me dit, et tu vois, quand les moniteurs sont un peu libres, on leur apprend à évangéliser. J'ai dit, merci Seigneur. Elle a retenu le message. Et le second, c'est que notre fils Daniel est en ce moment même au Cameroun pour évangéliser avec un groupe de jeunes. Ils ont retenu la leçon.
Puissions nous, frères et
sœurs, être des exemples pour nos enfants, pour les jeunes. Nous devons être les premiers à être sur le terrain comme exemple. Alors notre parole aura de la puissance, parce que ce sera une parole vécue. En Ésaïe 52, verset 7, il est dit « Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte des nouvelles de bonheur, qui annonce le salut. » Ésaïe 52, verset 7, et bien sûr c'est le Seigneur. Mais l'apôtre Paul, citant le même passage en Romains 10, verset 15, dit « Combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. » Et ça, c'est notre responsabilité.
Donc la pièce la suivante, c'est le bouclier de la foi. Un bouclier, c'est une pièce aussi essentielle et elle a un peu le même caractère que la cuirasse. Elle doit être impénétrable. Sinon, elle ne sert à rien. Une flèche peut arriver à 200 à l'heure si elle traverse le bouclier. C'est la mort. Il y a plusieurs rois, Akab et Josias, qui sont morts avec une flèche. Les archers, c'est terrible en face. Le bouclier de la foi. Alors, vous avez certainement entendu peut-être un frère dans une réunion dire « Il nous faut tenir ferme le bouclier de la foi ». Alors c'est peut-être l'occasion de voir en image ce que ça veut dire. Alors, pour tenir un bouclier, voyez, voilà, tenir un bouclier ferme, il y a deux emprises. Et là, on le tient ferme.
Et on le tient devant.
Dans certains cas, il était si lourd qu'il y en avait un qui portait le bouclier. Je crois à Goliath. Le bouclier de la foi. Satan attaque notre foi. La foi du croyant, c'est, je dirais, le noyau central de sa vie spirituelle. Et Satan l'attaque. On a plusieurs passages où on voit que la foi, c'est absolument fondamental. C'est fondamental pour Dieu aussi. Le Seigneur Jésus, dans un passage des Évangiles, dit « Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Il ne dit pas autre chose, de la foi. C'est-à-dire des gens qui se fient à Dieu. Et nous sommes des gens qui nous fions à Dieu. C'est pas rien. Alors, ce n'est pas étonnant que Satan attaque notre foi vive. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu est fiable? D'abord, pour notre salut. Parce que nous sommes sauvés par la foi au Seigneur Jésus, la foi en son œuvre. Ensuite, nous marchons par la foi, de Corinthiens 4. Et nous espérons tous mourir dans la foi. Sauvés par la foi, Éphésiens 2. Nous marchons par la foi et nous mourrons dans la foi, Hébreux 11. Et puis ce grand chapitre 11, c'est l'apologie de la foi. Cette marche de la foi. Nous posons des actes de foi constamment. Nous lisons la parole, nous avons foi dans la parole, sinon ça serait un vieux bouquin. Et Satan attaque notre foi. Et je crois que, donc, ce coup de poignard que j'ai donné, ou ces flèches qui arrivent, ces dards enflammés du méchant, dans notre traduction, des flèches du méchant, il me semble que c'est toutes les fois que nous, que Satan nous susurre qu'une chose précieuse est vaine. Par exemple, on trouve ça dans le psaume 73, Asaph dit, arrive à dire, quand il voit prospérer les méchants, il dit, c'est en vain que j'ai purifié mes mains dans l'innocence. Dans Malachie, c'est en vain qu'on sert Dieu. Dans Ésaïe aussi, c'est en vain qu'on cherche Dieu. Et Satan va nous dire, mais c'est depuis le temps que tu pries pour cette histoire, c'est vain. Tu perds ton temps de prier. Tu perds ton temps aussi de servir Dieu. Malachie, c'est en vain qu'on sert Dieu. Et aussi, dans 1 Corinthiens 15, à la fin d'1 Corinthiens 15. Mais là, c'est positif. Votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Pourquoi ? Dans le contexte, parce qu'il y a la résurrection. S'il n'y avait pas la résurrection des morts, notre travail pour le Seigneur, ça serait vain. Et donc, dans nos exercices, dans nos combats de prière, parce que nous prions, mais il y a des sujets qui correspondent vraiment à un combat. Nous connaissons des amis qui prient pour un sujet depuis près de 50 ans. C'est pas rien. Et nous sommes plusieurs ici à avoir des sujets de prière qui correspondent à des combats de prière en cours. Et nous ne voyons pas encore le bout du tunnel. Et c'est facile que Satan nous dise, Dieu ne s'intéresse pas à toi. Et ta cause a passé inaperçue de ton Dieu, dans Ésaïe aussi. Et donc, on est là aussi pour s'encourager à se confier en Dieu. Et on pourrait trouver beaucoup de personnes dont la foi a fléchi. On pourrait penser à Sarah. Au bout de 10 ans, dans le pays, Dieu lui avait promis un fils, et puis il venait toujours pas, et puis elle a craqué. La foi est remplacée par l'incrédulité. Il y a Élie aussi, le grand Élie, qui a craqué. Mais je voudrais parler de David. David est un homme très intéressant. Au psaume 71, psaume 71, c'est le psaume de la vieillesse, mais il parle de sa jeunesse dans ce psaume, et il dit, « Tu as été ma confiance dès ma jeunesse. » Vous vous souvenez dans les champs de Bethléem, l'histoire du lion et de l'ours. C'est pas par sa force, mais c'est en se confiant en Dieu. Et ça, c'est le côté intime, privé. Il faut commencer par là, les jeunes. Et puis après, dans la vallée des Lacs, quelques années après, devant le combat, devant Goliath, alors là, c'était public. Il s'est confié en Dieu. Il n'avait même pas besoin de l'armure matérielle, il en avait une autre. Et il dit dans un psaume, que dans plusieurs psaumes, il est parlé du bouclier, l'Éternel est mon bouclier. Psaume 28, je crois. Et alors pendant ces 10 ans, environ 10 ans où il a été pourchassé par Saül, il a écrit presque la moitié des psaumes. Et dans combien de psaumes il parle de Dieu qui est même sa confiance. C'est beau de voir qu'il tient ferme le bouclier de la foi. Mais quand on arrive à 1 Samuel 27, David laisse tomber le bouclier de la foi. Il dit ceci, et David dit en son cœur, maintenant, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de bon pour moi que de me sauver en hâte dans le pays des Philistins. Saül renoncera à me chercher. Il est complètement découragé. Dans ce long combat, parce que vous savez, ce bouclier-là, il pèse 8 kilos, et je ne le tiendrai pas beaucoup d'heures. Là. Et nous savons tous qu'il y a des exercices des combats de confiance en Dieu qui sont harassants, et que Satan nous a à la longue, à l'usure. Nous avons tous ici, un jour ou l'autre, si nous avons un peu vécu, été découragés. Et on a dit du Seigneur Jésus qu'il serait irrévérencieux de dire qu'il n'a jamais été découragé. Parce que le découragement sous-entend toujours chez nous un certain fléchissement de notre foi. Et lui, sa foi en Dieu, en tant qu'homme, n'a jamais fléchi. Il n'a jamais eu le bouclier par terre. Mais nous, oui. Et donc, dans l'histoire de David, les choses s'aggravent parce que le bouclier est par terre. Les Philistins se doutent qu'il est en disgrâce, et puis les chefs ne veulent pas qu'il vienne avec eux à la guerre contre Israël. Et il lui donne finalement la ville de Tsiklag. Et donc, il habite là, puis il fait des incursions, puis il revient un jour à Tsiklag, et la ville est brûlée. Et ces femmes sont emmenées, et les femmes de ces braves 600 hommes, tout est emmené, tout. Et là, il est dit, 2 Samuel, je donne la référence, 1 Samuel 30. Et là, il est dit, David fut dans une grande détresse. Et pour comble de détresse, de malheur, ces 600 hommes, ses amis qui l'ont suivi jusque-là, se retournent contre lui et veulent le lapider. Et je crois que c'est le point le plus bas que David ait connu comme souffrance. Et je prends seul la responsabilité de dire que je crois que c'est vraiment là qu'il a prononcé le psaume 22. Il a dit là, dans la plus grande détresse, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces paroles qui serviront au Messie 1000 ans plus tard sur la croix de Golgotha pour l'abandon, le vrai abandon. Mais je crois que David l'a dit là. Mais on a dans ce passage une chose merveilleuse, c'est qu'il est dit que David se fortifia en l'Éternel. C'est-à-dire qu'il relève le bouclier de la foi. Il le relève. Et il se fortifie en l'Éternel. Et peut-être nous, sur notre chemin, s'il y a des frères et des sœurs qui sont dans l'adversité, qu'ils relèvent avec nous ce bouclier de la foi, qui se confie de nouveau en Dieu pour aujourd'hui et pour demain, pour une nouvelle étape. Alors, qu'est-ce qui nous fait relever ce bouclier de la foi? Il me semble deux choses, et on l'a expérimenté bien des fois. Voilà qu'on lit la parole, on est découragé, puis un verset se plaque sur nous. C'était pour nous ce verset, pour nous encourager. Allez, on se confie de nouveau dans le Seigneur. Ou alors, peut-être un frère, une sœur, que Dieu nous fait rencontrer et qui nous encourage exactement au moment où nous en avions besoin. Et peut-être ce moment, c'est là, aujourd'hui, dans cette grange. bouclier de la foi. Et je n'ouvre que le sujet, un très beau sujet, mais le Seigneur Jésus, pendant toute sa vie, a tenu ce bouclier de la foi. Il s'est confié en Dieu d'un bout à l'autre. Tu m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère, jusqu'à sur la croix, vers qui crie-t-il sa détresse ? Dieu, se confie en Dieu. Mais il y a des gens aussi qui se sont confiés en Dieu. Par exemple, Ézéchias. Même les ennemis savaient que Ézéchias se confie en l'Éternel. Que nous soyons encouragés. Ce n'est pas seulement des choses intéressantes, mais que nous aussi, nous tenions ferme le bouclier de la foi.
La pièce suivante, c'est le casque du salut, verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Une première remarque, le mot salut ne signifie pas toujours le salut de l'âme, loin de là. Et ici, il ne s'agit pas du salut de l'âme. Cette armure complète est proposée à des croyants. Elle est proposée à des croyants, à des personnes nées de nouveau qui ont affaire aux artifices de l'ennemi. Par exemple, en 2 Samuel 22, 3, David dit « Dieu est mon rocher, je me confierai en lui. Mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite et mon refuge, mon sauveur. Tu me sauveras de la violence. » Ce qui est certain, c'est que de tout temps, le casque sert à protéger la tête. Il y a, à l'époque, c'était des casques soit d'airain, soit de fer. Mais de nos jours, depuis qu'on a inventé le plastique, nous connaissons les casques pour faire le vélo, des casques pour faire de la moto, des casques pour faire du skateboard ou des tas d'autres choses. La fonction principale du casque, protéger la tête. Et donc, comment a été fait un casque romain ? À vrai dire, il y a des dizaines de casques romains. Et encore une fois, il faut retenir la pensée générale. Et la description que je vais vous en faire, une sorte de synthèse de plusieurs casques. Tout d'abord, il y a la bombe. Pourquoi ? Parce que c'est bombé. C'est aussi simple que ça. Et en équitation, on parle d'une bombe. C'est un casque comme ça, mais je ne sais pas en quelle matière il est, mais il n'est pas en fer. La protection est évidente. Et en plus, c'est renforcé sur le devant, de manière que si on prend une flèche, d'une part, elle ne descend pas sur les yeux, et d'autre part, elle ne transperce pas la tête. Parce que derrière le crâne, il y a quoi ? Il y a bien sûr le cerveau, il y a l'ordinateur central qui commande tout. Je bouge mon pouce parce que mon cerveau le commande. Je vois non pas par les yeux, je vois par le cerveau. Le cerveau, c'est donc l'organe le plus important pour un être humain. On ne fait rien sans cerveau. Et donc, nous sommes invités à protéger notre cerveau. Ce qui était aux réunions précédentes, ont bien entendu que tous les combats se passaient là. C'est le centre de commandement, vous comprenez ? Et l'ennemi veut l'atteindre. De quelle manière ? Eh bien, le casque du soldat romain nous apporte des informations. Il avait parfois une visière, un peu comme une casquette, mais plus courte. Et cela peut empêcher d'être ébloui par les artifices du diable. Vous savez que quand on conduit, des fois, quand on est ébloui, ben on ne voit plus rien. Il y avait une visière. Cette visière servait, surtout dans les casques d'apparat, aussi à protéger les yeux. Elle descendait devant les yeux. Protection du regard. Il y avait aussi des pièces sur le côté qui s'appelaient les garde-joues ou les paragnatides. Un coup d'épée sur le côté, on était protégé, et ça protégeait en même temps les oreilles. Donc, je récapitule. Faisons attention à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, mais aussi ces protège-joues, protéger la mâchoire et la bouche. Faisons attention à ce que nous disons. Il y avait aussi derrière un couvre-nuque. Un couvre-nuque qui protégeait le cou. Dans le corps à corps, un coup d'épée sur le cou était mortel. Et même la Bible nous parle d'une génisse dont on devait briser la nuque. Si on brise la nuque, on tue la personne. Donc, nécessité d'une protection aussi, derrière le casque. Et si on ne veut pas attirer trop l'attention, il ne faut pas tendre trop son cou, vous savez, parce qu'à ce moment-là, on devient fragile. Donc faisons attention à l'orgueil. Dieu fait le reproche à son peuple d'avoir roidi leur cou pour ne point écouter ses paroles. Colossiens 2, verset 18, dit que personne ne vous frustre. Du prix du combat, faisant sa volonté propre dans l'humilité, s'ingérant dans les choses qu'il n'a pas vues, enflé d'un vain orgueil par les pensées de sa chair. Les pensées de la chair sont les attaques, on va dire, intérieures. Mais nous pouvons être attaqués aussi de façon extérieure par le diable. Et nous devons nous protéger de tout cela. Le casque du salut va nous aider. Il y avait aussi une sorte de bouton sur le casque. Vous savez à quoi il servait ? Il servait à mettre une crête qui servait souvent dans les parades. Et en plus, c'est une sorte de crinière, et en plus peinte en rouge. Et des fois, elles étaient dans le sens longitudinal et parfois dans le sens transversal. Alors, le combat n'a pas de crête dessus. Il ne fait pas coucou à l'ennemi avec sa crête en disant « je suis là, je suis là ». Et l'autre ajuste et tire. D'accord ? Donc, l'humilité. Le chrétien ne se fait pas remarquer dans les combats. J'ai dit tout à l'heure que ceci faisait un petit bruit qui peut nous faire penser au témoignage. Mais il ne fait pas de grand bruit face à l'ennemi. Il est modeste. Il met sur sa tête ce casque du salut de manière à éteindre les dards enflammés du méchant, à pouvoir parer les coups terribles que nous pouvons parfois recevoir. Donc veillons sur nos pensées, sur ce que nous voyons, ce que nous écoutons, ce que nous disons, et soyons humbles, car chacun le sait, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles.
La pièce la suivante, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alors, pour la petite histoire, je tiens à cette épée, que c'est mon petit-fils de 18 ans qui l'a forgée. Et il me l'a offert pour Noël, bien attachée sur une planche. Et en la recevant, j'ai dit, mais voilà le sujet du 15 août. J'ai la première pièce, sans concertation avec les autres. Et finalement, il y a une suite magnifique. Si le Seigneur ne nous a pas dirigés par son esprit, ben, je ne sais pas comment on a fait. Et donc, il y a marqué au pyrograveur l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. En fait, ce n'est pas l'épée du chrétien, c'est l'épée de l'esprit. Elle est efficace, cette épée, quand le Saint-Esprit la manie dans nos vies. Peut-être que ça demande aussi un peu de maturité, parce qu'on ne donne pas une épée à un enfant. On le donne à un homme. l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu n'est pas qu'une épée. Elle est par exemple une nourriture. Ça n'a rien à voir. Mais là, dans ce texte, elle est une épée. Aussi en Hébreux 4, une épée à deux tranchants. Donc là, elle parle d'autorité. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. La parole d'un homme, le diable s'en fiche. La parole de Dieu, c'est autre chose. Et là, pour illustrer cette épée de l'esprit qui est la parole de Dieu contre le diable, il n'y a pas de meilleur exemple que les tentations au désert, de Luc 4, où le Seigneur Jésus, face à Satan, alors sous quelle forme Satan est-il venu, ça le Saint-Esprit ne nous amuse pas à ces détails. Nous ne savons pas comment il est venu, mais il est venu en personne, comme au jardin d'Éden. Et il a profité de la faiblesse du Seigneur Jésus après 40 jours de jeûne. Satan n'a aucune pitié. Il peut très bien nous attaquer quand nous sommes affaiblis, quand nous sommes fatigués, quand nous sommes déprimés, peut-être quand nous sommes malades. Et Jésus répond trois fois, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il est encore écrit. Alors, comme on l'a souvent dit, si Jésus avait utilisé sa puissance divine contre le diable, il ne serait pas un modèle pour nous, parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous n'avons pas de puissance en nous-mêmes. Mais en tant qu'homme, il a cité la parole de Dieu. Et il a pris, dans un seul livre de l'Ancien Testament, le Deutéronome, c'est-à-dire le livre de l'obéissance. Alors peut-être qu'il y a là quelque chose pour que cette épée de la parole de Dieu soit efficace dans notre main ou dans la main de l'Esprit qui est en nous. Il faut que nous obéissions à la parole de Dieu. Et il est possible que un chrétien désobéissant à la parole ne fait pas peur au diable. Il faut d'abord que nous nous nourrissions de la parole de Dieu. Jésus, en tant qu'homme, connaissait la parole de Dieu. Il connaissait ces versets du Deutéronome. Il faut d'abord que la parole de Dieu imprègne notre être profondément, nous nourrisse chaque jour, pour que, au mauvais jour, elle soit une épée. Au mauvais jour, tel verset nous revient en mémoire et c'est exactement ce qu'il fallait pour faire face au diable. Et on voit dans ces trois tentations que c'est particulièrement subtil. Mais Jésus, comme il le cite, la première tentation de Luc 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus vivait de toute parole de Dieu. Il en vivait. Et comme la nourriture nous constitue, ça va loin, nous sommes constitués de la nourriture que nous prenons. Eh bien, c'est par rapport à la parole de Dieu, à la Bible, c'est important de... Nous vivons de cette vie, notre vie spirituelle est alimentée par la parole de Dieu. Et c'est pour cela que c'est important que nous mettions un moment de côté, et ça c'est très pratique. Nous sommes tous des gens pressés, même les retraités, il paraît qu'ils n'ont pas le temps non plus. Mais il faut tous que nous prenions un moment pour lire la parole de Dieu et avec prière. Et au mauvais jour, ça va nous servir. Les promesses de Dieu vont être là l'Esprit va nous les rappeler au bon moment. Et les ruses du diable sont telles que dans la troisième tentation, il cite la parole. Il cite le psaume 91. C'est grâce au diable qu'on connaît le psaume 91. Là, il a fait une erreur, là. Mais il tronque la parole de Dieu. Il ne dit pas « tu fouleras le lionceau et le dragon » parce que ça aurait été sa propre condamnation. Alors si Satan, dans certaines occasions, Satan nous cite la parole, eh bien, il faut voir toujours le contexte. C'est vrai que la parole de Dieu nous juge. Oui, elle nous juge. Mais la parole de Dieu n'ébranle pas notre foi, jamais. La parole de Dieu fortifie notre foi, nous juge, mais ne détruit pas, ne nous ébranle pas. Donc si quelque chose est contre nous, c'est qu'il y a un problème. Et Jésus ne cite encore la parole. Et dans les trois citations, je n'ai pas le temps de les lire, mais dans les trois citations que le Seigneur Jésus fait dans le Deutéronome, il y a le nom de Dieu. Parce que Satan veut nous couper de Dieu. C'est son but. Et Jésus fait l'inverse. Il cite le nom de Dieu. Il y aurait beaucoup à dire sur cette parole de Dieu. Il y a dans des églises des chrétiens, je me demande, ils disent que la parole de Dieu est dans la Bible, mais ne la recouvre pas toute. Oula. Et qui c'est qui va faire le tri là? Tel passage c'est la parole de Dieu, puis tel autre à côté c'est la vie de Paul. Là on est sur une pente glissante. Hein. Il y a des églises libérales qui attaquent l'autorité de la parole de Dieu. Alors on n'a plus l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et en terminant, je recommande ce petit fascicule d'un frère que les anciens ont bien connu, André Gibert, qui nous a enseigné avec autorité. Autorité de la Bible, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et je lis sa conclusion. En résumé, la Bible n'a besoin ni de la caution d'homme considéré dans ce monde, ni d'être confirmé par son accord avec la science des hommes, ni d'être démontré vrai par des théories bâties ou non sur elle. Elle est la vivante et permanente parole de Dieu.
Je suis conscient de l'heure, donc vous avez écouté l'annonce, les sept pièces de l'armure complète de Dieu. Peut-être avez-vous pensé que Lucien s'était trompé. C'est vrai que dans la parole, il y a un ensemble est représenté par sept. Sept jours de la semaine et jusque dans l'Apocalypse, sept églises, sept sceaux, sept trompettes, sept coupes, etc. Et comment une armure de Dieu, surtout, pouvait-elle être complète sans qu'il y ait sept pièces? Alors nous avons recherché la septième. Et la septième, elle ne s'appelle ni le casque ni l'armure, elle s'appelle Rita. Vous ne connaissez pas? La septième pièce de l'armure de Dieu en Éphésiens 6. Rita, voilà, c'est un symbole dans la poche. Voilà Rita. Et je vous lis ce qu'on trouve sur Internet. Rita signifie réseau intégré de transmission automatique. C'est un système de transmission maillé tactique. Il permet l'établissement rapide de communication téléphonique, la transmission chiffrée de messages selon un système d'évasion de fréquence. Et là, écoutez bien. Il résiste aux actions de destruction, de brouillage et d'écoute de l'adversaire. Je répète, il résiste aux actions de destruction, de brouillage et d'écoute de l'adversaire. Ainsi même, si les centraux téléphoniques sont détruits sur le champ de bataille, les communications sont maintenues. Et Paul dit « Priez par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps, par l'Esprit, éveillez à cela avec toute persévérance, faites des supplications en faveur de tous les saints et pour moi, afin que quand j'ouvrirai la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile pour lequel je suis un ambassadeur lié de chaînes, afin que j'ai la hardiesse d'en parler comme je le dois. » Brièvement, la prière en tout temps, en tout lieu, il y a possibilité de communiquer avec Dieu, il y a possibilité de recevoir ses ordres. Il est parlé ici de toutes sortes de prières, et je n'entre pas dans le détail, mais il y a la prière générale pour tous les saints. Nous nous prions pour les persécutés, pour l'Évangile. Et puis, il dit pour moi, la prière spécifique, particulière, n'est-ce pas? Et tout cela en tout temps. Si vous réfléchissez un peu comment Paul faisait, d'une part, il dit qu'il travaillait jour et nuit. D'autre part, il évangélisait jour et nuit. Et après, il dit de prier jour et nuit. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Il n'y a pas de solution en dehors de la communication et communion constante avec notre Dieu. Il est bien de prendre un temps pour la prière, sans aucun doute. Mais la prière, c'est plus que ça. C'est la relation constante que nous avons avec le Seigneur. Je fais un peu de vélo électrique. Et bien sûr, qu'est-ce que je fais? Ce matin, vous voyez, j'arrivais près de Vialette, à Sainte-Agrève, et je voyais des vaches, dont certaines avaient les pieds dans l'eau. Et j'ai dit, Seigneur, je te glorifie parce que tu es le créateur de ces choses et je ne crois pas, selon la théorie de l'évolution, que ces vaches trempant les pieds dans l'eau assez longtemps se transforment en baleines. Je ne le crois pas, ça, Seigneur. À toi la gloire, à toi qui es le créateur. Une prière, des actions de grâce, la louange. La prière doit être par l'Esprit, cet Esprit qui nous a été donné, il nous est dit qu'il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Dans nos combats contre les puissances de l'obscurité, nous ne sommes pas laissés seuls. Nous pouvons rester constamment en relation avec l'Éternel des armées. Et à ce moment-là, la victoire nous est acquise. Je redonne la parole à Lucien pour conclure.
Oui, Pierre me demande de conclure. Je ne sais pas si ça va être une conclusion, mais je ne veux pas enfermer le sujet. Mais je vais l'ouvrir même. Parce que pour montrer qu'on n'a pas épuisé ce sujet important. Il y a, à vrai dire, il y a des années que je me pose cette question grave. Est-ce que Satan a pouvoir directement sur nos circonstances? À votre avis? Par le livre de Job, on pourrait penser oui. Et pas seulement par le livre de Job. Dans les Thessaloniciens, Paul dit « J'ai voulu aller vers vous et Satan m'en a empêché. » Et en Apocalypse 2, il est dit « Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. » Donc la chose est très grave. Pierre, est-ce que Satan avait le pouvoir de brûler ta maison? Comment se fait-il que, lors d'une grande conférence qui nous a réunis il y a quelques années, la nuit d'avant, un enfant tombe gravement malade? Et encore, dernièrement, avant un voyage où nous devions présenter la parole de Dieu dans une grande conférence, Voilà que quelques jours avant, un bruit bizarre dans le moteur de notre voiture, que nous n'avons pas pu faire réparer. Il a fallu partir comme ça. Pure coïncidence? C'est pas sûr. Et on pourrait donner d'autres exemples, mais beaucoup plus anciens. Spurgeon prêchait l'évangile à Londres. Et c'était un temps de réveil. Il y avait des milliers de personnes dans un immense théâtre à Londres. Et il y avait toute une série de réunions. Il y avait des conversions. Parce qu'il y avait, petit détail important, il y avait 15 hommes qui priaient dans la chaufferie en permanence. Et tout à coup, dans la série de réunions, le feu s'est déclaré dans ce bâtiment. Je ne me souviens pas, je crois que ça n'a pas eu des répercussions graves, mais les autorités de la ville ont stoppé ces réunions. Et Spurgeon a dit, profondément désolé, il a dit « ce sont les rugissements du diable ». Et face à ces choses graves, pénibles, déstabilisantes même, quelle est la ressource? Eh bien, c'est peut-être justement l'armure complète de Dieu. Et afin qu'au mauvais jour, ce mauvais jour-là, ces mauvais jours que je signale, afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister, le mot est lâché, résister, qui est sous la plume de l'apôtre Paul, ici, afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister, qui est sous la plume de l'apôtre Jacques, résistez au diable, il s'enfuira de vous, et sous la plume de l'apôtre Pierre, résistez-lui, étant ferme dans la foi. Ce mot, résister, que notre héroïne, avec son combat de 38 ans, aggravé sur la margelle. Elle n'a pas trouvé d'autres mots qui résument son combat que ce mot « résister ». Son biographe a raison de terminer son livre en disant « une vie sacrifiée et triomphante ». Que nous soyons encouragés par la parole de Dieu et par l'exemple de ceux qui ont combattu, qui ont résisté, qui ont été victorieux.
Je terminerai en lisant ce cantique connu des anciens. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ vous conduit de victoire en victoire, il mène qui le suit. La trompette résonne, debout, vaillant soldat, l'immortelle couronne et le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyons fermes et forts, redoublons de courage. S'il redouble d'efforts, debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats, revêtez-vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux, debout. Debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt, jetant nos armes aux pieds du roi des rois, les champs, après les larmes, le trône, après la croix. Si on pourrait se lever, si un frère voulait bien prier, pour clôturer la réunion. Merci.
Oui, debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Nous avons appris ce cantique lorsque nous étions très jeunes, il y a 70 ans et plus. Notre Dieu, notre bon Père, tu nous as réunis encore cet après-midi pour ouvrir ta parole, pour que nous puissions méditer une fois de plus ces passages que nous connaissons depuis longtemps, mais qui nous rafraîchissent toujours. Et nous sommes heureux d'avoir pu examiner toutes ces armures complètes qui nous permettent de lutter contre l'ennemi. C'est vrai que la vie chrétienne est un combat. Nous ne pouvons pas rester inactifs. Il nous faut avancer dans le chemin à la suite du Seigneur Jésus, qui est l'auteur, la source et la cause de notre éternel bonheur. Notre Dieu, notre bon Père, fait que nos cœurs aient été remués par ces moments, que nous ayons pu repasser dans nos cœurs ces choses magnifiques, ces enseignements magnifiques que nous avons, ô notre Dieu, et qui nous permettent de continuer la route jusqu'au jour où nous allons le voir, où nous allons voir Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, qui va venir nous chercher, et nous serons alors dans le ciel, dans ces demeures éternelles qu'il est allé nous préparer. Dieu notre Père, nous nous remettons à toi. Nous prions beaucoup pour ceux qui ont beaucoup de peine dans la vie, ceux qui souffrent, ceux qui ont des difficultés, pour que tu les encourages aussi à résister, à lutter, résister. C'est un mot, cela a été rappelé, mais tellement important, Dieu notre Père. Alors, nous te remettons tout cela. Te prions pour les enfants aussi, tous les enfants qui sont au camp Joubert en ce moment, tous les enfants qui sont dans nos maisons. Dieu notre Père, nous te supplions que tu les tires à toi pour ceux qui ne sont pas encore tirés, parce que c'est toi seul qui tires les âmes. Seigneur Jésus l'a dit lui-même, personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui le tire. Alors nous te demandons, notre Dieu, de tirer encore beaucoup d'âmes dans ce monde, qu'il y ait beaucoup d'âmes sauvées. Dieu notre Père, nous te faisons confiance. Nous remettons à toi pour ces moments tellement bénis que nous passons ici sur le plateau. Nous te rendons grâce une fois de plus, notre Dieu, pour tous tes soins d'amour. Et nous savons que tu veux nous conduire et nous aider dans le chemin. Aussi, nous te faisons confiance, comme nous l'avons toujours fait pour beaucoup d'années, et nous voulons encore nous remettre à toi pour le restant de ce jour, pour le restant de cette semaine, et nous te bénissons dans le saint nom de ton bien-aimé. Amen.
Amen. Amen.